Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Par ailleurs, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous trouverez une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine, notamment des productions en français sur le Maté et sur le quartier de San Telmo. Il faut savoir que le 27 août 1920, la première transmission radio est effectuée dans notre pays. À l'occasion, RAE, l'Argentine vers le monde, présente une QSL électronique spéciale en commémoration des 100 ans de cette émission historique. Dans la conception de la QSL, vous pouvez voir une image de la Spica, un modèle très populaire de récepteur radio à transistor portable reconnu par des générations d'Argentins. Pour recevoir cette EQSL, vous devez envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Maintenant, place à l'actualité. Le ministre argentin de l'économie, Martin Guzman, a déclaré cette semaine que la négociation de la dette avec le Fonds monétaire international sera difficile et prendra des mois. Et il a estimé qu'il est possible que seulement au début de l'année prochaine, un accord puisse être conclu. Nous ne pensons pas que l'accord sera rapide en raison du nombre de questions à négocier, a dit Guzman dans des déclarations à la radio. Nous allons susciter un large débat qui va prendre du temps. Nous allons discuter de chaque détail en faisant preuve de prudence. Cela va prendre des mois. Nous ne pourrons peut-être pas fermer avant le début de l'année prochaine, a déclaré le ministre. Guzman n'a pas écarté que le FMI puisse essayer de poser une sorte de condition à la négociation de la dette avec cet organisme, comme la flexibilisation du travail ou la réforme des retraites. Mais il a assuré que le pays n'acceptera rien qui aille à l'encontre du développement de l'Argentine. À Buenos Aires, une école basque, Euskal Etxea, qui a la particularité d'ouvrir un espace important aux Français. Pour nous en parler, mais aussi pour nous faire part de sa passion pour la langue de Molière, nous avons contacté l'institutrice argentine Roxana Garcia Grassi, qui coordonne le département de français.
J'ai étudié le français depuis mon premier degré à l'école Lenguas Vivas de la ville de Buenos Aires et j'ai appris à aimer cette langue et la culture française. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire mes études pour devenir prof de français. Puis après, et heureusement, j'ai eu la possibilité d'étudier en France et cela a contribué à me faire prendre la décision de consacrer ma vie à l'enseignement de la langue française et de la culture française. À 20 ans, j'ai commencé à travailler en tant que prof à l'école Euskal Etxea. Cette institution, fondée en 1904, a enseigné le français depuis sa fondation, due à la présence des sœurs de Marie d'Anglais, qui assuraient l'enseignement des filles des familles basques. Quand les sœurs sont parties, l'enseignement de français était si important pour le propriétaire de l'école qu'on continue jusqu'au présent avec l'étude de cette langue. Nous sommes affiliés à l'Alliance française de Buenos Aires et on a été siège de passation des examens internationaux jusqu'à l'année dernière. On a une étroite relation avec l'Alliance française de Buenos Aires et avec l'Institut français et on essaye de participer à toutes les activités qu'ils organisent. Notre plan d'études se développe à partir de premier degré de l'école primaire, c'est-à-dire que l'on commence à apprendre le français à des élèves de 6 ans, jusqu'à la cinquième année de l'école secondaire, c'est-à-dire des élèves de entre 16 et 17 ans. Et pendant ce parcours, les étudiants se présentent aux examens pour les enfants de l'Alliance française et après aux examens internationaux pour obtenir le diplôme DELF, diplôme d'études de langue française. Quand ils terminent leurs études, la majorité ont passé les 4 unités correspondant à ces diplômes, c'est-à-dire les unités A1, A2, B1 et B2.
En ces temps de pandémie, rappelons que l'Argentine est en hiver, donc en pleine année scolaire, les cours se font à distance. Roxane nous illustre comment ils se sont organisés à Leucal Eche.
Je vous explique que pendant cette étape de confinement, et vu qu'on ne pouvait pas assister à l'école, on s'est organisé avec une plateforme qui s'appelle Schoology et des classes Zoom. Des classes virtuelles, disons. Sur la plateforme, normalement, les élèves mettent de vidéos avec de l'explication de nouveaux thèmes qu'il fallait travailler pendant l'année et des exercices. Et puis après, pendant les classes virtuelles où ils voient les élèves, on a partagé les classes en deux pour travailler avec un nombre d'élèves plus restreint et pouvoir privilégier l'oralité, disons. Et pendant ces rencontres par Zoom, on regarde un tout petit peu s'il y a eu des doutes, si les élèves ne comprennent pas quelque chose. Et on profite sinon pour leur donner du matériel pour qu'ils préparent de travaux oraux. Et à ce moment-là, c'est le moment des élèves de parler et de mettre en place leurs connaissances et le niveau de langue, disons. On est en train de travailler comme ça. Maintenant, pour cette deuxième partie de l'année, on a ajouté encore des classes Zoom et on a ajouté des classes pour des élèves qui ont des doutes ou des questions à poser. Et de cette manière, il y a une relation plus étroite avec le prof. Parce que vraiment, bien qu'on ait pu s'organiser assez bien, il est vrai que la présence, ce contact avec les enfants, etc., n'existe pas. Donc, parfois, il devient difficile de soutenir la classe de cette manière. Mais on s'arrange.
Pour terminer, Roxana Garcia Grassi nous recommande 2 chansons qu'elle a introduites dans ses cours pour le plaisir de ses élèves.
En ce qui est des chansons, il y en a 2 que nous adorons à l'école et que nous avons travaillé avec les enfants. La première s'appelle « Voix sur ton chemin » et c'est une chanson du film « Les choristes ». Justement, on a travaillé avec les enfants l'année dernière et ils ont été ravis de pouvoir chanter. Et moi, j'ai été vraiment très émue de les entendre.
De la vie de la...
Et la suivante, qui est un peu plus actuelle, disons, s'appelle On écrit sur les murs. Et c'est une chanson assez moderne de un petit groupe qui s'appelle Kids United.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface.
Écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs la force de nos rêves,
nos espoirs en forme de graffiti.
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève,
un beau jour sur le monde endormi.
Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages
métissages.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
L'Argentine, qui entame des négociations sur sa dette avec le FMI, vient d'atteindre un accord avec les créanciers privés. Commenté par Christian Deboissieu, vice-président du Cercle des économistes, dans un reportage à RT France.
Cet accord trouvé, c'est une bonne nouvelle pour Buenos Aires réellement.
C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ce n'était pas évident parce que jusqu'au dernier moment, il y a eu un peu un bras de fer. Mais je pense que ça laisse un peu de temps à l'Argentine. L'Argentine ne va pas bien du tout. Quatrième, voire cinquième mois de confinement, la récession, l'inflation. C'est pas la première crise d'Argentine, hein. Depuis 30 ans, il y en a eu beaucoup, et y compris des défauts de paiement. Vous avez évoqué ce qui se passe depuis le mois de mai. Donc là, les créanciers privés ont accepté les conditions qui avaient été proposées par le président argentin. Ça couvre qu'une partie de la dette, hein. 66 milliards de restructurés. 66 milliards de dollars sur une dette totale de 320. Il reste la dette vis-à-vis du FMI, il reste la dette vis-à-vis d'un certain nombre d'États souverains, etc. Donc pour moi, le sujet reste là.
Sur le contenu de l'accord, que peut-on dire, puisqu'on l'a dit, les créanciers avaient refusé l'offre de Buenos Aires la semaine dernière.
Sur le contenu, chacun s'y retrouve un peu, c'est-à-dire que l'Argentine va rembourser qu'une partie de sa dette. Concernant ses obligations pour un montant, donc le montant facial est de 66 milliards de dollars et l'Argentine a obtenu la possibilité de ne rembourser que 53% de ce qui est dû. Également, les intérêts vont être baissés. Il y a un délai de grâce d'un an. Au départ, l'Argentine avait demandé 3 ans de délai de grâce. Là, elle a été obligée de céder un peu. Donc, elle va rembourser là-dessus à partir de de 2021. Et puis, les créanciers, je veux dire, il faut mieux récupérer quelque chose que rien récupérer. Nous sommes dans un contexte où les problèmes de la dette des pays émergents, les problèmes de la dette redeviennent vraiment cruciaux aujourd'hui, compte tenu de l'impact du corona sur l'ensemble du monde et sur les pays émergents. Les pays émergents, ils sont exposés à des sorties de capitaux. Le taux de change, les taux de change sont en train de se casser la figure, baissent, donc ça veut dire plus d'inflation. Donc, pour l'Argentine, cet accord où chacun accepte un compromis, ça va lui donner un peu de temps. Il faut qu'elle se consacre à ses objectifs domestiques. Sortir de l'inflation, sortir de la récession, sortir du corona. C'est le pays, à ma connaissance, qui aura pratiqué le confinement le plus long. Et un confinement très long, ça a évidemment des conséquences économiques terribles.
Quelles sont les perspectives pour l'économie argentine, hein, le pays qui fait face à un taux de pauvreté de 35%, une inflation galopante également. Et c'est vrai qu'avant cet accord, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, pour l'Argentine, puisque le pays était en défaut de paiement depuis le mois de mai.
Écoutez, ça a eu un tout petit peu de temps pour se consacrer, je parle de l'Argentine et du président argentin, à se consacrer à des objectifs domestiques. Il faut absolument sortir de la récession. Le pays va être à moins 10% du recul du PIB cette année. Alors vous allez dire, ce sont pas les seuls, la France aussi va être à moins 10%, simplement les situations ne sont pas comparables. Le taux de pauvreté est à 35 ou 40%, taux de chômage également qui galope. Un continent latino-américain qui peut pas aider, une économie américaine elle-même qui va moyen. Donc le FMI lui-même, en avril-mai, lors des réunions de printemps, a dit la dette de l'Argentine n'est pas soutenable. Donc je pense que les créanciers privés en ont tiré la conséquence en acceptant ce compromis aujourd'hui. Il faudra qu'il se passe la même chose en ce qui concerne la dette de l'Argentine vis-à-vis du FMI, de la Banque mondiale et la dette bilatérale vis-à-vis des États souverains. J'ai pas regardé les chiffres, mais j'imagine que l'Argentine, elle doit avoir aussi un peu de dette vis-à-vis de la Chine. Bon, la Chine est partout, la Chine est en Afrique, la Chine est également en Amérique latine, donc il faut regarder de près, mais chacun devra faire un effort.
Justement, vous l'avez bien précisé, et on l'a dit aussi, 324 milliards de dollars, hein, c'est la dette, hein, argentine. Les créanciers, certes privés, interviennent, mais vous parlez du FMI, des institutions internationales. À quoi faut-il s'attendre de leur côté?
Quand le FMI dit au printemps, la dette de l'Argentine n'est pas soutenable, je veux dire, il faut qu'il en tire lui-même les conséquences. C'est pas le moment d'imposer à l'Argentine un programme d'ajustement, disons, restrictif, avec une politique monétaire sévère, avec une réduction des déficits publics. Je pense que nous sommes tous, et l'Argentine comme nous, pays avancés, dans un contexte où, à court terme, il faut limiter les dégâts de la crise sanitaire. Donc, moi, je demande au FMI, à la Banque mondiale, aux créanciers publics, après les créanciers privés qui ont fait un effort aujourd'hui, il faut que tous les créanciers publics ou privés fassent un effort. Alors, les taux d'intérêt sur la dette commerciale, la dette à l'égard des privés sont généralement plus importants que les taux d'intérêt vis-à-vis du FMI, vis-à-vis des États, mais ils sont quand même positifs, les taux d'intérêt, alors que nous, en Europe, on a aujourd'hui, comme vous savez, des taux qui sont proches de zéro quand ils ne sont pas négatifs. Donc je pense qu'il faut aider l'Argentine, et il faut aider l'Argentine à céder, il faut lui laisser un peu de temps, et puis il faut aborder le sujet de l'Argentine dans le contexte régional, parce qu'il y a une telle interdépendance en termes de commerce entre pays d'Amérique latine et avec les États-Unis que la solution, elle ne peut pas venir de l'Europe ou de la Chine. Il faut aussi qu'elle vienne du continent américain.
Merci à vous, Christian de Boissieu. Je rappelle que vous êtes vice-président du Cercle des économistes et professeur d'économie à l'Université Panthéon-Sorbonne.
La dette argentine vient de loin. Il est bon de revoir un peu cette histoire contemporaine. Pour cela, nous avons recours à l'analyse d'une faillite financière fournie par Jean-Baptiste Payet, élève ingénieur à l'École centrale de Lyon. Il faut savoir que cet exposé date de 2014. Donc, il ne tient pas compte de la lourde dette des 4 ans de néolibéralisme avec Mauricio Macri, qui a littéralement hypothéqué le pays.
Bonjour à tous, donc je suis Jean-Baptiste Payet et je vais vous faire une conférence donc sur la crise économique qui s'est passée en 2002-2003 en Argentine. Pourquoi me direz-vous ce sujet ? Ça s'est fait en fait à force d'entendre les médias qui parlaient de faillite dans les pays Grèce, Chypre, et pour moi ça représentait strictement rien. En fait, on parle d'une faillite pour une entreprise, ça se comprend. En particulier, ça peut se comprendre.
Mais pour un pays, c'est difficile à imaginer. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais m'intéresser parce que je savais qu'un pays avait déjà fait faillite et que c'était l'Argentine. Et donc, je me suis intéressé à ce sujet. Je pensais intéressant un peu de faire part un peu de mon analyse et un peu des raisons qui ont provoqué cette faillite. Je vais vous présenter ça d'une façon assez simple. Il y a eu un avant, il y a eu un après et il y a eu la crise. Donc, on va faire un peu chronologiquement une analyse un peu des causes et des conséquences de cette faillite. Il faut savoir que l'Argentine, je vais commencer un peu au milieu du XXe siècle, environ après la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine est un des pays les plus influents du monde. Elle fait partie du top 10, que ce soit industriel ou agricole, des cultures agricoles. Elle possède un potentiel pour l'exportation énorme et qu'elle utilise à bon escient. Malheureusement, elle va avoir de graves troubles politiques qui vont arriver dès l'arrivée de Perón, qui va mener une politique péroniste qui peut être caractérisée par une protection et une protection sociale énorme, un État omniprésent, donc dans tout, dans les échanges, dans les taxes, dans la protection sociale, si bien que l'économie et la bourgeoisie va commencer un peu à se rebeller. Ça va finir en coup d'État militaire et ça va partir pour à peu près 30 années où aucune stabilité politique et économique va arriver à être trouvée. Donc elle va dégringoler au classement des puissances mondiales, son PIB va chuter, elle va perdre toute influence et il y aura eu de graves répressions de la population avec plusieurs dizaines de milliers de morts au cours de ces années-là. Tout ça, ça va nous ramener un peu aux années 80, donc, où on arrive enfin à trouver une certaine stabilité politique, la fin des dictatures politiques un peu de tout ce qu'on a pu connaître en Argentine, en Amérique du Sud. Et donc, on va essayer de remettre un peu le pays dans le droit chemin. Malheureusement, c'est plus difficile que ça, sachant que voilà, tout est un peu à terre, toute l'industrie, l'agriculture. Et donc, ils vont faire appel à des spécialistes de la monnaie, qui sont de Chicago, pour arriver à trouver une ligne directrice à leur économie. Donc, en partenariat avec le FMI et la Banque mondiale, ils vont prendre une des plus importantes décisions qu'ils auront prises peut-être au XXe siècle, qui est la création du currency board, c'est-à-dire le pesos va être aligné complètement sur le dollar. En soi, on pourrait presque dire que le peso n'existait pas et qu'il payait tout en dollars. Malheureusement, pour un pays qui n'est pas très solide, ça va être au début génial, parce qu'ils vont arriver à avoir plein d'entreprises qui vont venir dans le pays, en étant sûr que la monnaie ne va pas vivre des inflations et des désinflations. Et donc, ils vont pouvoir profiter de cet apport de capitaux important des États américains ou européens pour pouvoir se développer. On en arrive au fait, en 1998, il y a la crise de la bulle Internet. Ça commence. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les entreprises qui se basaient donc sur le média d'Internet étaient largement trop capitalisées par rapport à ce qu'elles valaient réellement. En soi, tous les investisseurs étaient là en train de... Ouais, on va investir dans l'Internet à très long terme, ça va être super rentable, c'est le bon plan et tout. Et ils se rendent compte, après des chiffres et des prévisions un peu mauvaises, que finalement, le plan n'est pas si bon que ça sur long terme. Et donc, ils vont s'en aller complètement de toutes ces entreprises basées sur le média d'Internet pour aller se réfugier dans des valeurs sûres, telles que le dollar. Problème, depuis le currency bond, il y a le pesos qui est aligné sur le dollar, donc le prix du dollar monte, le pesos monte, et donc... L'Argentine se trouve dans l'impossibilité d'exporter. Alors là, gros problème, toutes les entreprises, tous les capitaux étrangers qui étaient arrivés dans le pays se disent « mince, je suis dans un pays, je ne peux même pas arriver à utiliser ». Petite anecdote, pour savoir pourtant que l'Argentine est un pays avec beaucoup d'agriculture, on ne retrouvait quasiment aucune denrée qui venait de l'Argentine d'elle-même. Tout venait du Brésil, parce que la monnaie était beaucoup plus faible au Brésil, et grâce au rapport des taux de change, on arrivait à acheter des produits pour très peu d'argent. Donc l'Argentine se trouvait vraiment son économie était en train de flancher, sa dette augmentait énormément vu qu'elle n'avait plus de rentrée d'argent grâce aux exportations. Et elle va suivre, en tant que fidèle élève du FMI, elle va décider de suivre les conseils, c'est-à-dire conseils de rigueur et d'austérité pour la population. Un peu comme ce que l'on a pu voir ces derniers temps avec la crise actuelle. Ce qui se passe, c'est que ça mène à des instabilités politiques. Ils n'arrivent pas à reprendre l'économie, n'arrive pas à se remettre à flot. Et donc, il va y avoir en un an, il faut savoir qu'il y a eu une succession à peu près dans les années 2001-2002, une succession de 6 présidents à la présidence de l'Argentine. Donc, il se retrouve vraiment dans une impasse, personne n'a de solution, le peuple commence à faire des manifestations de partout. Grand risque, il y avait une suppression due au FMI, vu que le FMI voulait que le pays soit très ouvert. Il y avait abolition dans les années 90-2000 de toutes les sécurités sociales, de tous les salaires minimums, etc. Donc la population se retrouvait complètement désœuvrée. On peut résumer un peu ce qui s'est passé en 4 ans par une chute quand même importante de presque un quart de la production, donc 21% du PIB en 4 ans, ce qui est vraiment énorme. Une taux de pauvreté qui est d'environ 60% de la population, un chômage qui touchait une personne sur 4, une dette qui a atteigné 50%, ce qui pour l'époque était déjà énorme. C'était dans les plus grands pays. Conséquence, le ministre de l'économie décide, avec le président, le 23 décembre 2001, d'arrêter tout paiement de la dette extérieure. Donc ils ne remboursent plus la dette, ils gèlent les avoirs et ils font maintenant, il va falloir qu'on négocie si vous voulez qu'on continue à vous payer. Et nous, on va vivre un peu en autonomie. Une petite anecdote pour vous montrer que c'était quand même pas si naturel que ça de faire ça. C'est que 3 jours avant cette déclaration, il y a le ministre de l'économie qui a appelé le directeur de la Banque mondiale pour lui prévenir qu'ils étaient en train de pencher vers cette solution, que ça allait arriver. Et le directeur de la Banque mondiale avait répondu en rigolant, ne pensant pas que c'était possible que quelqu'un ose faire enfin défaut de paiement pour un pays. Donc, à partir de ce moment-là, on va étudier un peu les conséquences. Il faut savoir que donc, le pays sort forcément des marchés internationaux, il ne peut plus emprunter, vu que plus personne ne veut lui faire confiance. Ils ont décidé un jour d'arrêter de payer. Pourquoi leur prêter de l'argent? Ça peut très bien arriver encore demain. Cependant, l'État commence à devenir très protectionniste. Forcément, il faut arriver à financer. Comment on finance? On met des taxes. On met des taxes de partout, sur l'importation, sur l'exportation. Sachant que l'Argentine est un pays d'environ 40 millions d'habitants, ça reste quand même un marché assez conséquent, qui avait quand même des restes d'industrie de leur croissance passée. Et donc, ils commencent à essayer de vivre en autonomie par rapport au fonds et avec des prêts en interne grâce à leur banque. La conséquence, c'est qu'il y a une énorme croissance dans le milieu des années 2000, une croissance à la chinoise, comme on pourrait dire, avec une moyenne de 9% en 5 ans, ce qui est... Il faut savoir que les États européens, s'ils ont 2% ou 1,5%, ils seraient contents. Et donc, tout le monde, une grande révolution dans le pays, tous les gens commencent à retrouver un peu le sourire parce que l'économie va mieux. Et les gens ont du travail, l'emploi revient, la pauvreté diminue énormément, elle passe en dessous des 25%. Donc, une grande amélioration du pays. Ce qui est intéressant, c'est de noter, c'est que c'est cette femme-là qui va mettre les principales lois. Donc Madame Kirchner, avec les plans K, où elle décide vraiment de cesser de négocier avec tous les pays vraiment d'une façon très protectionniste, c'est-à-dire en échange. On est prêt, il faut savoir par exemple, pour accepter de commercialiser des BMW, ils ont demandé à BMW de venir, donc ils sont prêts à en prendre, ils ont demandé à BMW en échange de s'arranger pour vendre du riz argentin en Allemagne. Donc c'est plein de petits marchés, des arrangements comme ça. Ils ont fait pareil avec Barbie. Pour que Barbie soit vendue en Argentine, il fallait qu'il y avait au moins une des pièces qui soit fabriquée en Argentine, ce qui fait que maintenant elle couvrait 5%, je crois, l'industrie d'Argentine couvrait 5% des jouets. Maintenant elle en couvre plus de 40%. Donc ça a de réelles conséquences et ça a vraiment de réelles améliorations dans la vie des Argentins. Le problème reste que la dette, il a fallu la négocier. Bon, ils ont arrêté de payer, mais ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Tous les créanciers sont venus les voir en disant bon, on va être payé quand même un jour ou l'autre, il faut qu'on trouve un compromis. Il y a eu deux dates importantes. Donc la première, c'était 2005, puis 2010, qui ont permis de restructurer réellement la dette. Restructurer, c'est dire on oublie 75% de la dette, en gros. C'était ça qui s'est passé. En échange, vous nous promettez par contre de payer le reste. Bon, donc les créanciers étaient prêts. Ils sont arrivés à convaincre 93% des créanciers à faire ce marché. Le problème, il y a un grand mais à tout ça. C'est bien beau. On pourrait croire que c'est le rêve idyllique, le pays est refait à neuf, l'industrie est bien présente maintenant. Cependant, ils restent très faibles parce qu'ils n'ont aucun accès aux marchés internationaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent emprunter zéro. Donc ils ne vivent que par eux. S'il se passe un problème à un moment, comme actuellement, une crise économique, baisse des exportations, baisse des revenus, forcément ils se retrouvent en danger et ils ne peuvent pas emprunter au FMI et à la Banque mondiale avec lesquels ils se sont complètement détachés depuis ce qui a pu se passer lors de la crise. Donc il y a ce premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils ont trouvé un accord qu'avec 93% des gens. C'est-à-dire qu'il reste 7% des créanciers qui n'ont pas accepté, qui gardent leur dette à 100%. Ces gens-là sont commencés, dont le Club de Paris, c'est des nouveautés assez récentes, je crois que ça date de 2-3 semaines, ont décidé de porter plainte contre l'Argentine pour non-paiement de la dette. Le problème, c'est qu'ils sont en train de gagner les procès. Et c'est des dizaines de milliards qui sont en train d'être demandés à l'Argentine, donc qui a posé des recours par ses créanciers. En effet, maintenant, si un pays arrive à trouver, grâce à des accords et un peu à des lois internationales, arrive à trouver un compromis avec 75% de ses créanciers, tous les créanciers sont obligés d'accepter le plan. Sauf qu'à l'Argentine, à l'époque, c'était assez brouillon. Ils faisaient un peu des lois un peu tirées de partout les pays, avec un peu des lois internationales de partout. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de convention comme ça, donc les 7% restants ont le droit de demander encore un remboursement de leur dette. Dernier point pour montrer, il y a encore, là aussi, c'est tout récent, l'agence de notation Fitch a décidé de baisser la note de l'Argentine à notation CC. C'est le dernier cran avant le DDD qui est encore défaut de paiement. Donc l'Argentine se retrouve encore une nouvelle fois au bord du gouffre, et malgré les grands projets de Mme Kirchner qui est de baisser encore de 50% les importations avant 2020, il va falloir trouver de l'argent d'ici là. Et donc c'est pour ça que la situation n'est pas aussi idyllique que pour beaucoup d'économistes le pensent par rapport à l'Argentine. Donc en conclusion, on peut voir que la crise a pu avoir quand même des effets positifs sur la population, donc un cadre de vie bien plus intéressant, un niveau de vie, des protections sociales, donc salaire minimum, ils donnent de l'argent pour les enfants qui vont à l'école. Donc on pourrait croire que là-dessus, c'est une grande réussite. Cependant, elle évolue toute seule dans un monde qui est complètement mondialisé et elle est victime de tout ce qui peut se passer à côté. Et malheureusement, elle se retrouve encore une nouvelle fois, 10 ans après, proche de nouvelles faillites qui peuvent arriver peut-être demain, le mois prochain ou l'année prochaine si l'économie se dégrade. Donc moi, pourquoi je m'étais intéressé également exactement à ce sujet, c'était pour la Grèce et savoir est-ce que ça vaudrait le coup ou pas qu'elle fasse faillite. Beaucoup de gens ont dit oui, il faut qu'elle arrête de payer, qu'elle sorte de l'euro, elle ira bien mieux parce qu'en ce moment l'euro est quand même à un niveau est surévalué et à un niveau très cher par rapport au dollar, elle a du mal à faire face. Sauf qu'il faut savoir que la situation reste un peu différente entre l'Argentine et la Grèce. C'est que la Grèce a une dette maintenant qui est supérieure à plus de 100 et quelques pourcents de son PIB. Elle a très peu d'industrie. Son industrie est vraiment très faible. Elle vit beaucoup du tourisme. Et donc, elle a besoin de tout ce qui peut être d'appartenir à ce monde européen encore pour s'assurer un niveau de vie assez conséquent. Et donc, un défaut de paiement n'aurait peut-être pas les mêmes conséquences que sur un pays d'Argentine, en plus dans un continent beaucoup moins développé. Et ne serait peut-être pas forcément la meilleure des choses. Alors, le ministre de l'époque de l'Argentine n'arrête pas de faire des conférences pour pousser la Grèce à se dire « Bon, faites comme nous, ça a marché. » Finalement, c'est peut-être pas la meilleure des idées.